Vous écoutez France Culture, il est 12h30. Le journal vous est présenté aujourd'hui par Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour. La disparition de Jeanne Moreau à 89 ans, l'actrice a été retrouvée sans vie à son domicile ce matin. Nous reviendrons sur ses 65 années de carrière, une carrière riche. Dans l'actualité internationale au Venezuela, Nicolas Maduro crie victoire au lendemain de l'élection de l'Assemblée constituante. L'opposition, elle, appelle à manifester. L'État islamique revendique l'attaque contre l'ambassade d'Irak à Kaboul. Un kamikaze s'est fait exploser. Actuellement, les forces de sécurité afghanes affrontent des hommes armés. Dans le reste de l'actualité française, le Conseil d'État valide les mesures d'aide aux migrants de Calais. La juridiction administrative rejette les appels du ministre de l'Intérieur et de la mairie de Calais. Midi 45, la grande table d'été avec vous, Géraldine Mosna-Savoie.
Oui, alors on va avoir un portrait croisé. Louis Buñuel, Jean-Claude Carrière, dont la collaboration a d'ailleurs débuté avec Jeanne Moreau au début des années 60. C'était dans le journal d'une femme de chambre. Et puis, dans une première partie, Objectif Japon et Perspective Nippon, avec deux expositions, paysages japonais au musée Guimet et architecture japonaise à Paris 1867-2017 au pavillon de l'Arsenal.
A tout à l'heure.
Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle.
Ce lundi 23 septembre, j'entame une grève de la faim, méthode extrême. Mais je suis certaine que dans la situation où je me trouve, c'est la seule solution. La direction de la colonie pénitentiaire refuse de m'entendre. Je ne renoncerai pas à mes revendications, je n'ai pas l'intention de rester sans rien dire et de regarder sans protester les gens tombés d'épuisement, réduits en esclavage par les conditions de vie qui règnent dans la colonie. J'exige le respect des droits de l'homme et que nous soyons traités comme des êtres humains et non comme des esclaves.
Vous avez sans doute reconnu cette voix grave, celle de Jeanne Moreau, l'actrice qui a fasciné les plus grands réalisateurs et qui a été retrouvée morte à son domicile parisien ce matin. Vous venez d'entendre donc la lettre de Nadeja Tolokonikova, publiée par Mediapart et France Culture, lue par Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, engagée donc, qui défendait les Pussy Riots. Valentine Joubin, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez pour nous sur ces 65 ans de carrière.
Une carrière et une vie sous le signe de la liberté, de l'audace. Jeanne Moreau, qui a grandi à Paris, commence à jouer au théâtre en cachette de ses parents. On est à la fin des années 40, une passion secrète qui devient son métier en 1949 lorsqu'elle entre à la Comédie Française. Sur les planches du Français puis du Théâtre National Populaire de Jean Villard, Jeanne Moreau choisit des rôles audacieux. Elle incarne à plusieurs reprises des personnages de prostituées, ce qui lui vaudra notamment d'être jetée à la porte du domicile familial. Cette envie de prendre des risques, Jeanne Moreau l'appliquera tout autant au cinéma qui fait d'elle une vedette dès le début des années 50. Touchez pas au Grisby de Jacques Becker, puis la Reine Margot de Jean Dréville, et des films grand public où sa beauté garçonne et son timbre de voix font déjà des merveilles. Mais c'est le cinéma d'art qui intéresse Jeanne Moreau. Son premier vrai grand rôle, elle le doit à Louis Malle et à Ascenseur pour l'échafaud, un film noir à la mise en scène audacieuse. Ce train de la modernité, Jeanne Moreau ne le quittera jamais. Dans les années 60, elle devient la muse de François Truffaut, qui l'a fait jouer dans Jules et Jim, un film qui feront connaître sa voix et son jeu au grand public. Jeanne Moreau inspire aussi les cinéastes étrangers les plus avant-gardistes. Elle joue pour l'américain Orson Welles, l'allemand Fassbinder, l'espagnol Buñuel et plus récemment Wim Wenders. À deux reprises, elle avait également présidé le jury du Festival de Cannes. Pour Serge Toubiana, l'ancien directeur de la Cinémathèque française, Jeanne Moreau est à elle seule tout le cinéma, la lumière du cinéma français en France et dans le monde.
Et parmi les nombreuses réactions, à noter celle de l'Élysée, pour qui Jeanne Moreau était, je cite, une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire et son exigence. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro crie victoire au lendemain de l'élection de l'Assemblée constituante. Ce résultat ne constitue pas une surprise car le scrutin d'hier, qui a été émaillé de violence, a été boycotté par l'opposition. Celle-ci appelle d'ailleurs à de nouvelles manifestations aujourd'hui. Bonjour Marie-France Abastado.
Bonjour.
Alors à travers ce scrutin, Nicolas Maduro souhaite en fait prolonger son mandat à la tête du pays.
Oui, et cette élection visait donc à élire les 545 membres d'une assemblée constituante, une assemblée qui sera appelée à voter une nouvelle constitution pour remplacer celle qui avait été promulguée par le défunt président Hugo Chavez. Alors que le président Maduro soutient que la nouvelle constituante permettra de freiner la violence et surtout rétablir l'économie du pays, l'opposition craint plutôt que le pays ne bascule dans une dictature communiste. Déjà, Nicolas Maduro a souhaité que la nouvelle assemblée constituante lève l'immunité parlementaire pour que des députés de l'opposition puissent être jugés. Et puis, autre sujet d'inquiétude pour les opposants, c'est que l'assemblée constituante, qui aura le pouvoir de dissoudre le parlement actuel, pourra effectivement gouverner pendant une période indéterminée.
Le président Maduro, de son côté, s'est félicité du taux de participation hier.
En effet, Nicolas Maduro considère comme une victoire la participation de 8 millions d'électeurs, donc de 41,5% de la population, un taux établi par le Conseil national électoral. Mais le leader de l'opposition, Enrique Capriles, ne reconnaît pas le résultat d'un processus qu'il estime frauduleux. Selon l'analyste en question électorale Eugenio Martinez, le mode de scrutin, en combinant le vote territorial et le vote par secteur professionnel, aura permis à certains électeurs de voter deux fois. Ce mode de scrutin et les pouvoirs élargis de la constituante ont alimenté, on le sait, la grogne populaire et les violences se sont d'ailleurs poursuivies au cours du week-end. Hier, journée d'élection, 10 personnes sont mortes, portant ainsi à 120 le nombre total de décès au cours de ces derniers mois de manifestation.
Merci à vous, Marie-France Abastado. L'État islamique revendique via son agence de propagande l'attaque contre l'ambassade d'Irak à Kaboul. Il y a d'abord eu une explosion provoquée par un kamikaze et actuellement, les forces de sécurité afghanes continuent à affronter des hommes armés près de l'ambassade. Sur place, le récit de Sonia Ghezali.
Quatre explosions retentissent vers 11h au local, suivent des salves de tir. Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée de l'ambassade d'Irak, indique une source sécuritaire, mais le ministère de l'Intérieur refuse de confirmer l'attaque durant plusieurs heures. Au moins trois assaillants réussissent à pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Les échanges de tir entre les forces de sécurité irakiennes appuyées par les forces afghanes et les assaillants durent plusieurs heures. Des tirs et des explosions de grenades secouent le quartier de Shalenaou où se trouve l'ambassade d'Irak. Toute la zone a été bouclée par les forces de sécurité qui ont également fait évacuer tous les bâtiments voisins de la représentation diplomatique irakienne. C'est la première fois que celle-ci est attaquée en Afghanistan. Certains observateurs font le lien entre cette attaque revendiquée par l'organisation État islamique et la victoire des forces irakiennes sur le groupe terroriste à Mossoul, en Irak. Le IS, qui s'est implanté en Afghanistan en janvier 2015, ne cesse de multiplier ses attaques, notamment à Kaboul.
Bonne nouvelle sur le front du chômage en Europe. Il a baissé à 9,1% en juin dans la zone euro. C'est son niveau le plus bas depuis février 2009, selon Eurostat. La diminution est particulièrement remarquable en Italie et en Espagne, moins 0,2% en un mois. Retour à l'actualité française avec cette décision très attendue du Conseil d'État. Elle concerne les migrants de Calais. La juridiction administrative rejette les appels du ministre de l'Intérieur et de la mairie de Calais contre une ordonnance les enjoignant de mettre en place des accès à l'eau. Cette ordonnance évoquait une carence des autorités. Bonjour David Ravier.
Bonjour Antoine.
Alors comment expliquer cette décision qui confirme l'ordonnance du tribunal administratif de Lille ?
Cette délibération du Conseil d'État souhaite surtout faire en sorte que les migrants coincés autour de Calais puissent vivre décemment. Pour eux, le fait de ne pas pouvoir installer de dispositifs d'accès à l'eau et des sanitaires pour les migrants est considéré comme un manquement aux libertés fondamentales de ces personnes. Et les autorités sont donc obligées de corriger cette mesure. Dans le cas contraire, c'est considéré comme un traitement inhumain et dégradant vers les migrants. La décision du Conseil d'État vient donc appuyer le jugement du tribunal administratif de Lille, qui avait déjà rendu une ordonnance similaire le mois dernier. Malgré la fermeture l'année dernière du centre d'accueil pour migrants de Calais, plusieurs centaines de personnes, dont une bonne partie sont des mineurs, sont revenues récemment aux abords de la ville. Il faut donc à nouveau leur donner les moyens d'accéder à des conditions d'hygiène normales. La ville de Calais va donc devoir s'adapter. Elle doit mettre en place à l'extérieur du centre-ville des installations d'eau pour les migrants, pour leur permettre de boire, de se doucher, de laver leurs vêtements et de faire leurs besoins dans des conditions décentes. Cette décision servira à améliorer les conditions d'hygiène des personnes qui vivent dans des camps de fortune et permettra aussi d'éviter la propagation d'éventuelles maladies. Le Conseil d'État invite également le préfet du Pas-de-Calais à rediriger les migrants qui le souhaitent vers des centres d'accueil un peu partout en France, afin d'éviter qu'une trop grosse population ne s'installe durablement à Calais et que la situation ne dégénère comme ça avait été le cas l'année dernière.
Merci à vous, David Ravier. Autre décision attendue du Conseil d'État, elle concerne le plus grand parc d'attractions d'Europe, le Marineland d'Antibes, dans lequel on peut voir notamment des orques et des dauphins, mais peut-être plus pour longtemps. En cause, un arrêté paru le 6 mai dernier au Journal officiel. Il interdit notamment la reproduction de ces mammifères en captivité. Et c'est contre cet arrêté que le Marineland a introduit un recours devant le Conseil d'État. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
Vous vous trouvez au Conseil d'État où le recours a été examiné ce matin. Pour Marineland, la fin de la reproduction des dauphins s'apparente à un mauvais traitement.
Oui, parce que ça suppose soit l'isolement entre les mâles et les femelles, or les dauphins ont besoin de relations et de sociabilité, soit une méthode contraceptive qui peut aboutir à inhiber les comportements des cétacés, selon les arguments avancés par l'avocat du parc d'Antibes, Marineland. Or, le bien-être animal, selon Maître Nicolet, est l'objectif de cet arrêté pris par l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Marineland, ainsi que deux autres sociétés qui organisent des spectacles avec des dauphins, font valoir aussi, et surtout que le but caché de cet arrêté, c'est tout simplement de mettre fin à leur activité in fine. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'interdiction de la reproduction, ajoutée à la dernière minute dans le texte sans consultation, il y a aussi l'interdiction de transfert des cétacés et l'interdiction de détention de nouveaux spécimens, ce qui veut dire à court terme la fermeture de ces parcs qui comptent sur ces spectacles avec les cétacés pour faire venir du public. Et de rappeler que Marineland emploie 150 salariés à l'année, 600 en période estivale. Face aux exploitants, plusieurs associations de défense des animaux et le ministère public. Ce dernier a d'ailleurs rappelé que des dérogations étaient possibles pour certaines naissances, précisant que si une naissance advenait malgré l'interdiction, il n'y avait pas d'euthanasie. Enfin, il n'y a pas d'urgence à suspendre l'arrêté selon la défense, car la durée de vie d'un cétacé est de 30 ans, ce qui laisse le temps aux exploitants de faire les travaux nécessaires pour améliorer l'habitat des cétacés, qui était l'objectif initial du texte, et de prendre aussi leurs dispositions pour limiter les naissances, Antoine.
Alors le débat s'est aussi porté sur une autre question très technique, celle du chlore dans les bassins.
Oui, dans l'arrêté, il est question d'interdire les produits chlorés, une disposition là aussi contestée et non prévue dans les versions initiales du texte. Marineland assure ne pas avoir été présent lors des négociations à ce sujet. Reste que selon les exploitants, il est impossible de faire les travaux nécessaires dans le délai imparti, c'est-à-dire plus de chlore dans les bassins le 17 novembre prochain. Mais le ministère considère que c'est tout à fait possible. C'est au juge maintenant de prendre sa décision qui sera rendue demain en fin de journée pour suspendre ou non cet arrêté ministériel.
Merci à vous, Mélodie Pépin. Retour à l'actualité internationale avec au Liban, près de la frontière avec la Syrie, l'opération d'évacuation de combattants syriens de l'ex-front al-Nusra qui a été lancée. Ces départs sont le résultat de négociations entre le groupe djihadiste et le Hezbollah libanais. Les deux formations se sont récemment affrontées dans la montagne qui sépare le Liban de la Syrie et le Hezbollah a mis en défaite les djihadistes. Alors Stéphane, bonjour. Vous êtes à Beyrouth. Alors combien de personnes vont quitter le Liban au cours de cette évacuation ?
Alors, ce sont plus de 10 000 personnes qui doivent rejoindre la Syrie à partir d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord de plusieurs centaines de combattants de l'ex-front al-Nusra qui étaient implantés depuis plusieurs années en territoire libanais dans la montagne frontalière avec la Syrie au-dessus de la ville d'Ersal. Ils ont été mis en défaite lors d'une offensive éclair menée par le Hezbollah. Et le parti armé libanais avait imposé mercredi dernier, au terme de 5 jours de combat, une trêve. Des négociations ont suivi. Le résultat, c'est donc ce départ des djihadistes syriens vers la province d'Idlib. L'ex-front al-Nusra est puissant dans cette région du nord de la Syrie. Avec les combattants, plusieurs milliers de civils vont prendre la route d'Idlib. Il s'agit de familles, de djihadistes ou d'autres réfugiés. Par ailleurs, un autre groupe anti-Assad, Ahl al-Sham, est aussi concerné par cette évacuation. Ces combattants sont estimés à 400. Près de 3000 civils vont partir avec ces hommes. Ils rejoindront cette fois une localité du Kalamoun. C'est une région syrienne voisine de celle d'Ersal au Liban. L'évacuation se fait par une route de terre au milieu du paysage désertique de la montagne. Des véhicules de la Croix-Rouge libanaise participent au convoi jusqu'à la frontière. Côté syrien, du personnel du croissant arabe syrien va prendre le relais. Le Hezbollah obtient en échange la libération de plusieurs de ses hommes. Selon une source du parti, ils sont attendus de façon imminente au Liban. Il s'agirait de 8 combattants, dont plusieurs avaient été faits prisonniers par les djihadistes dans la région d'Alep. Le départ des combattants syriens devrait diminuer les tensions au Liban, même si d'autres djihadistes restent présents dans la zone frontalière. Ils appartiennent à l'organisation État islamique. Une offensive de l'armée libanaise est donnée pour imminente.
Merci à vous, Laure Stéphane. En bref, le Conseil constitutionnel valide le traité de libre-échange Union européenne-Canada. Il avait été saisi par 60 députés qui estimaient que le CETA était incompatible avec la loi fondamentale française. Les sages ont jugé que l'accord approuvé le 15 février dernier par le Parlement européen, cet accord ne nécessitait pas de révision de la Constitution. Cet après-midi, le temps sera instable dans le centre et la Lorraine. Ailleurs, du soleil parfois légèrement voilé. Les températures seront chaudes au sud, fraîches au nord, 19 à Cherbourg, 25 à Paris, 31 à Toulouse, 36 à Grenoble. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour le prochain journal.